France Inter. Bonjour Marine.
Bonjour Marie, bonjour les auditeurs.
Bonjour les auditrices. Si votre enfant a lu l'intégralité des livres de Mortel Adèle, ça veut dire qu'il a lu au moins 1300 pages et que c'est donc un grand lecteur, malgré ses petits airs de « moi, j'aime pas lire ». Ne parlons pas de ceux qui ont lu l'intégralité du manga One Piece et qui vous disent qu'il n'y a rien de pire que de devoir bouquiner. Ceux-là sont les plus grands menteurs, mais peut-être tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils lisent, que la lecture c'est juste aller vers d'autres vies que les nôtres. Notre invité est là pour ça, mais aussi pour leur faire confiance et pour leur donner confiance.
Ce soir, on reçoit donc l'auteur de Mortel Adèle, c'est Antoine Doll, pour son nouveau livre Gadou, aux éditions Monsieur Tan et compagnie. Et
puis Antoine Doll, qui s'appelle aussi Monsieur Tan, donc de son nom d'auteur, il a dû se réparer un peu après une adolescence faite de violence à l'école et de harcèlement, d'où son amour pour l'art de la réparation. On a voulu lui présenter une artiste de la réparation à la mode japonaise.
C'est Myriam Greff qui sera notre invitée, passion Kintsugi.
Quant à Marine, comme le nouveau héros de Monsieur Tan, c'est un doudou, elle vous demande:
décrivez-nous votre doudou ou votre ami imaginaire. Pour répondre, vous pouvez nous envoyer un texto ou un message vocal sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. 01 45 24 7000.
Et puis pour aujourd'hui, Marine, tu t'es dit, c'est super, il fait si chaud dehors, 11 degrés à tout péter, si je faisais des glaces moi-même. Quelle bonne idée.
Bah oui, j'ai même testé un parfum un peu original. Je vous raconte tout ça tout à l'heure.
Un homme qui fait de ses failles sa plus grande force.
Une femme qui répare les fêlures avec de l'or.
Jusqu'ici, tout va bien. L'émission qui chahute les idées, c'est jusqu'à 18h.
France Inter, Marine Misset et Marine Baousson. Jusqu'ici, tout va bien.
Bonjour Antoine Doll.
Bonjour.
Vous êtes derrière un énorme phénomène de littérature jeunesse. D'ailleurs,
Et
derrière un micro également. D'ailleurs, on vous a déjà mis au travail. Vous devez faire des dédicaces pour tout.
Exactement.
Radio France. Là, c'est pour le petit Edgar dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Joyeux anniversaire, Edgar.
Vous me regardiez avec des yeux interrogatifs. Alors, à chaque fois qu'on a dit qu'on vous recevait cette semaine à des gens qui ont des enfants, c'était waouh, c'était super. Voilà, vous êtes donc le papa de Mortel Adèle, mais aussi de son chat Ajax, qui a maintenant sa propre vie dans ses propres livres, et de Gadou, le petit nouveau. Une peluche panda qui est née sans tache et qui n'est qu'amour pour ses petits lecteurs qui ont entre 3 et 6 ans.
C'est ça.
C'est aussi une initiation à la BD pour les petits, ce livre. Le tout est édité par votre propre maison d'édition, puisque après des années chez Bayard, vous avez créé votre propre maison. L'idée derrière cette maison, Antoine Doll, qui a l'air de vous tenir à cœur, c'est d'en faire un endroit sûr pour tous les enfants parfaitement imparfaits. C'est qui les enfants parfaitement imparfaits ?
Ben, c'est à peu près tous les enfants que nous étions, tous les enfants qui nous entourent. Et je trouve ça très beau de célébrer l'imperfection et de jouer sur nos failles pour construire l'avenir.
Et de leur donner confiance même en leurs failles, plutôt que de les réparer.
D'apprendre à les célébrer, en avoir confiance. Je trouve que c'est beau aussi d'avoir des failles et de les considérer comme des failles, comme des vulnérabilités, mais simplement de les célébrer et d'arriver à en faire des forces.
Antoine ou Monsieur Tan, vous êtes comme tout le monde, vous avez un peu des contradictions, on les explore ensemble.
On vous donne des phrases à compléter, mais il y a un mais. Antoine Doll, Mortel Adèle a trouvé le cœur de 19 millions de lecteurs. C'est incroyable.
Toute la journée, on gagnait 1 million par heure. On nous disait, c'est 18.
19 millions de lecteurs, mais...
Mais je viens vous présenter Gadou, qui ne demande qu'à en conquérir de nouveau.
Vous avez grandi à la montagne, mais...
Mais j'ai découvert un peu tard que le monde était beaucoup plus vaste.
Votre prof de français au lycée vous a dit que vous n'écririez jamais de livres, mais...
C'est bien la preuve qu'il ne faut pas croire tout ce que les adultes vous racontent.
Alors franchement, quand on nous a fait la liste de tous vos livres, ça tient sur plusieurs pages. Vous en avez combien ?
Il n'y en a plus d'une centaine. Il y a des romans, des albums, des bandes dessinées.
C'est énorme.
Ouais. Et vous avez d'ailleurs aussi écrit des paroles pour et avec une rappeuse, mais...
Dans ma tête, je chante comme Beyoncé.
Bien sûr. Vous dansez comme Beyoncé également ?
J'aimerais.
Eh bien, démonstration immédiatement. Vous êtes très prolifique, mais...
Il faudrait que je freine un peu.
Vous avez encore votre doudou, mais...
Mais il me regarde maintenant depuis une étagère. Il ne dort plus avec moi.
C'est bien. Les BD, c'est des livres, mais...
Point final.
Et c'est dur de grandir, mais...
Mais heureusement qu'il y a des livres pour nous montrer le chemin.
Merci Antoine Doll, vous êtes évidemment... Mortel. Si Gadou, votre nouveau héros, qui est en fait votre vieux doudou, n'est qu'amour et bienveillance, en revanche...
Votre vieux truc qui pue au fin fond d'un carton.
qui nous regarde tous avec bienveillance. Il n'est qu'amour et bienveillance. Mortelle Adèle, elle a un caractère bien trempé. Elle n'hésite pas à se venger, elle complote avec qui mieux, elle fait la guerre aux légumes. Ce personnage qui parfois inquiète les parents, il démontre ce que vous prenez à travers tous vos livres, c'est qu'il faut faire confiance aux enfants pour qu'ils grandissent en s'acceptant. C'est cet engagement, cette confiance dont on va parler dans quelques minutes. Et puis, parmi vos nombreuses nouveautés, donc il y a ce petit panda, Gadou, cet ancien boubou, doudou qui voyage beaucoup. Et ça nous a donné envie de vous demander, à vous qui nous écoutez,
décrivez-nous votre doudou ou votre ami imaginaire. Toi, par exemple, Marie.
Il s'appelle Nounours. Il est blanc, plutôt gris d'ailleurs. Maintenant, il a les yeux bleus, il a un petit nez jaune, il est un peu râpeux. Il est dans la chambre de mon fils actuellement, mais mon fils sait très bien que c'est mon doudou, pas le sien. Son père a essayé de me faire lui donner. J'ai pas du tout sûr de la syntaxe de cette phrase. Et je lui ai dit que c'était mort.
Bien sûr, voilà. Que voilà, il reste.
C'est le mien.
C'est le tien, c'est Nounours, quoi.
Il vient le prêter, mais pas plus.
Si la maison brûle, vous sortez l'enfant ou le doudou en premier?
L'enfant.
Franchement, elle hésite, hein.
J'ai senti qu'il fallait poser la question.
C'est pas socialement acceptable de sortir le doudou en premier.
Bien sûr. Bon, mais alors vous, décrivez-nous votre doudou ou votre ami imaginaire. Écrivez-nous sur WhatsApp au 01 45 24 7000. Vraiment, je pense qu'il va y avoir des petits messages vocaux mignons, normalement, qui vont arriver. J'espère. Sinon, c'est sur l'Instagram de l'émission. Jusqu'ici, tout va bien. _ France Inter.
Et en attendant de vous lire et d'entendre à quoi ressemble votre doudou ou votre ami imaginaire, comme Calvin, dans Calvin et Hobbes, parfois on est les deux, on parle en espagnol avec l'impératrice. C'est Meda Igual sur France Inter. Meda Igual de l'impératrice sur France Inter. Antoine Dole.
Oula, je suis convoqué dans le bureau de la directrice, ça y est.
C'est moi, c'est moi. Vous êtes aussi connu sous le nom de Monsieur Tan, votre avatar auteur de livres pour enfants qui cartonnent. Vous êtes l'auteur derrière Mortel Adèle, par exemple. 19 millions de livres vendus, on a gagné 1 million en fait, déjà depuis le début de l'émission. Et vous publiez dans votre nouvelle maison d'édition les aventures parallèles du chat d'Adèle Ajax et celle d'un doudou nommé Gadou pour les plus petits. Adèle, c'est loin d'être une petite fille modèle, parfois elle veut que ses parents disparaissent, elle veut devenir présidente de la galaxie. Les parents, ils sont parfois perplexes, mais vous, vous dites, mince, faites confiance aux enfants, et c'est cette confiance qui nous intéresse. Alors pour commencer, Mortel Adèle, elle est née d'un geste d'adolescent en colère, je crois. Elle vous accompagne depuis des années, en fait.
Oui, c'est un personnage que j'ai créé quand j'avais 14 ans, au terme de 3 années de violence scolaire qui était particulièrement violente. Et effectivement, un jour, dans un geste de désespoir, hein, puisque c'était vraiment l'émotion du moment, j'ai rayé une feuille et à partir de cette rayure, j'ai dessiné 2 yeux. Et c'est là qu'Adèle m'a regardé pour la première fois.
Donc une sorte d'alter ego qui était capable de faire tout ce que vous étiez pas capable de faire.
Bah, c'était surtout un alter ego qui était capable de répondre aux autres, qui était capable de leur dire tout ce que moi j'arrivais pas à leur dire, tout ce que j'arrivais pas à exprimer, le non, le refus de ce qui se passait, et simplement l'envie d'exister.
Et l'humour aussi peut-être ?
L'humour, oui, c'est vrai, ça m'a permis. Moi, j'étais un enfant plutôt timide, et je suis pas sûr que les gens aient vraiment su qui j'étais avant l'âge de 20 ans à peu près. J'étais plutôt du genre ascendant plante verte.
Cette petite fille super canaille qui s'en laisse pas compter, elle est parfois mal comprise par les adultes, mais elle raconte quoi au final, elle, du monde des adultes ?
Qu'est-ce qu'elle raconte du monde des adultes ? Qu'on a le droit de le remettre en question ? Que comme on l'a dit tout à l'heure, les adultes ne disent pas toujours des choses vraies, que c'est important de savoir aussi désobéir quand c'est nécessaire. Ils disent aussi qu'on finit jamais d'être un enfant. Mortel Adèle, c'est une bande dessinée jeunesse, mais c'est aussi une bande dessinée jeunesse qui parle à beaucoup d'adultes. On reçoit beaucoup de messages de parents qui nous disent « j'aurais tellement aimé avoir une Mortel Adèle quand j'étais enfant ». Et nous, de leur répondre « bah aujourd'hui, vous l'avez ». Et je trouve que c'est un peu la magie des livres jeunesse, c'est cette capacité de, je dis toujours, de réparer les enfants avant qu'ils ne se brisent et de réparer les adultes à des endroits où on pense qu'on ne peut plus les atteindre.
Un peu cassé. Vous, votre credo, c'est donc qu'il faut faire confiance aux enfants. C'est quelque chose qui manque quand même, vous trouvez ?
Je trouve, je vois beaucoup de... Enfin, on est quand même dans le monde de la littérature jeunesse, une production qui est très prolifique. Et je trouve que là où beaucoup de personnes... là où ça fonctionne pas, c'est quand on essaye en fait d'écrire un livre pour les enfants, en pensant que parce qu'on écrit pour les enfants, il faut avoir un certain ton, il faut avoir une certaine posture.
Certaine morale aussi.
Une certaine morale, et je suis assez convaincu que les enfants, c'est une création assez incroyable. Quand on est enfant, on est capable d'aller piocher tout ce qui est nécessaire à notre survie autour de nous, en termes de compréhension, d'aliments, de matériaux, pour se construire et pour avancer dans le monde. Et je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça, même adulte, que c'est toujours un matériau dans lequel on peut puiser l'enfance.
Faire confiance et donner confiance, il y a ça aussi chez vous. Baptiste Le Caplin, pendant le festival d'Angoulême, où il y avait une exposition Mortel Adèle interdite au Nasbrock, c'était en 2022, il disait que comme lui aussi, il avait été harcelé pendant son adolescence, il trouvait ça génial, Mortel Adèle, notamment parce que quand lui parle à ses enfants, il trouve pas vraiment les mots, c'est pas très marrant, ça peut même être un peu glauque.
Bah parce que c'est un adulte qui essaie de parler à des enfants, c'est ce qu'on disait en fait, c'est quand on fait pas confiance à cette intelligence-là.
Alors qu'Adèle, elle donne de la force, des clés pour s'affirmer. Elle est pensée par vous quand même, vous dites que vous pensez pas au fait que vous écrivez pour des enfants quand vous le faites, mais elle est pensée quand même, cette espèce de boîte à outils que peut être Adèle.
Alors elle est pensée maintenant, elle n'était pas pensée au départ. Alors Mortel Adèle, donc c'est une série qui existe depuis 2012, que j'ai démarré avec Miss Prickly jusqu'au tome 7. Maintenant je suis accompagnée de Diane Lefeyer qui illustre la bande dessinée. Au départ, c'était très spontané. C'était vraiment le cri d'un enfant qui voulait exister. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle était à ce point rentre-dedans, franche, sans compromis. Et puis, au fil du temps, on se rend compte, on a 1 million de lecteurs, 2 millions de lecteurs, 3 millions de lecteurs. Et on se dit, j'ai quand même entre les mains...
Une petite responsabilité.
Une responsabilité, quelque chose qui est important. Et au-delà de la question de la responsabilité, il y a vraiment la question de... Qu'est-ce qui peut rendre utile cette création ? Moi, ce qui m'a aidé dans Mortel Adèle, c'est la capacité qu'elle a eue de me pousser à m'affirmer, de pousser à assumer qui j'étais, à dire qui j'étais, à me saisir de mes différences aussi pour en faire des fiertés, à les célébrer. Et donc aujourd'hui, on a vraiment à cœur que Mortel Adèle, elle ait ce rôle-là aussi dans la vie des autres enfants. Et c'est, je crois, une grande fierté de se dire que ce personnage qui m'a sauvé quand moi j'étais enfant, aujourd'hui permet à d'autres enfants de se trouver.
En tout cas, elle est vécue comme ça, parce que vous dites que vous recevez des messages d'enfants qui s'adressent directement à Adèle pour lui demander des conseils.
Oui. Oui, oui. Bah, alors, on a créé un podcast, le podcast de Mortel Adèle, le podcast des bizarres où les enfants lui posent des questions. Et c'est, je trouve ça toujours assez magique. On reçoit à peu près 200 courriers par semaine à la maison d'édition. Et c'est des lettres, mais assez incroyables. Enfin, on est souvent en larmes avec Diane quand on épluche le courrier, parce que, il y a des choses, les enfants vous donnent quelque chose. Et quand les enfants vous donnent quelque chose, c'est que vous avez réussi à leur donner quelque chose aussi. Donc, je trouve que c'est un public assez incroyable.
Ce qui est assez fou, c'est que moi je connaissais pas Mortel Adèle et j'ai découvert par exemple qu'il y avait.
Quoi ?
Ouais, je connaissais son nom. Non, c'est pas. Moi, je pose tout. Mes excuses, voilà.
Non, mais j'ai vu que vous m'avez demandé un ami sur Instagram.
Elle les a posées. Elle a posé, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en regardant, j'ai vu par exemple qu'elle avait des tontons qui étaient homo. Mais ça, ouais. C'est super, ça n'existe jamais dans la littérature jeunesse.
Et c'est pas un sujet, en fait. C'est-à-dire qu'il y a dans son périmètre des choses qui se passent, mais qui sont pas des sujets. C'est-à-dire que c'est pas des sujets dans la bande dessinée. C'est tout ce qu'on aborde dans la bande dessinée, c'est à hauteur de sa vie d'enfant. Mmh. Et je trouve ça chouette de montrer aussi à voir un monde qui est le monde dans lequel, qu'on le veuille ou non, n'en déplaise à certains, les enfants vont grandir et vont continuer de grandir et vont continuer de vivre. Et donc, moi, c'est ce monde-là que je dois raconter. C'est pas, moi, mon rôle, c'est pas de créer des murs. Ça, c'est le rôle des parents, de créer des murs qui abritent, des murs qui protègent, des murs qui empêchent d'aller vers certains endroits. Et moi, mon rôle, c'est d'écrire des fenêtres. Et donc, du coup, de montrer les possibles et tout ce qu'on peut faire.
Et d'ailleurs, vous lancez Ajax. Donc, ça, c'est le chat d'Adèle. Il y a un livre sur Gadou, qui est votre doudou quand vous étiez enfant. En gros, il y a l'univers Marvel et maintenant, il y a l'univers Mortel.
C'est
quasiment pareil. Est-ce que Adèle, elle va grandir à un moment accompagnée aussi, parce que vous vous attaquez aux plus petits, mais est-ce qu'elle va accompagner les lectrices et les lecteurs à travers l'adolescence et pourquoi pas l'âge adulte ?
Oui, alors une précision sur la petite grande aventure d'Ajax, je suis accompagné de Chris Pop en co-scénariste et donc Diane Lefeyer qui illustre les dessins. Sur Mortel Adèle qui grandit, moi j'ai plus à cœur de montrer ce qu'elle accomplirait en grandissant. Là, on s'est engagé sur la question du harcèlement scolaire en publiant un fascicule qu'on a mis en téléchargement gratuit sur notre site internet qui permet d'ouvrir la discussion et de servir de plateforme pour en discuter dans les familles et dans les écoles. Voilà, c'est ce genre de choses que je pense Adèle aurait accompli en grandissant. La question se pose aussi de créer une fondation parce qu'Adèle, elle a mis beaucoup d'enfants à la lecture. Quand on a lu toute la collection Mortel Adèle, on a lu plus de 3000 pages en fait.
C'est pour ça que j'ai dit plus de 1300, parce que le chiffre datait de 2022. Je me suis dit, je vais pas les compter, donc je vais faire confiance.
Mais effectivement, Adèle, ce qui est intéressant, c'est pas tant ce qu'elle a à dire, c'est ce qu'elle montre. Des possibles de l'enfance.
En tout cas, il y a quelque chose que vous avez dit à plusieurs reprises et qui, moi, m'a beaucoup touchée parce que je pense exactement la même chose. Vous avez dit à Eva Bester qu'aujourd'hui, vous étiez heureux, mais que vous auriez bien aimé qu'on vous explique ce qui vous attendait dans la vie. Moi, je me souviens qu'à 20 ans, je me disais tout le temps ça. Je me disais, mais pourquoi personne m'a prévenu que ce serait dur comme ça, qu'on serait tout seul comme ça? Faire confiance aux enfants qui grandissent, c'est aussi de ne pas avoir peur de leur parler de ce qui arrive, de ce qui vient, non ?
Oui, bah moi, il y a une citation que j'aime beaucoup et je me demande si j'en avais pas parlé à Eva, qui était que, en fait, la vie des autres, c'est toujours le guide de survie de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est vrai que effectivement, on est lancé quand même dans la vie. C'est chaud quand même. Et puis on a tendance à croire que l'enfance c'est quelque chose de toujours joyeux et de toujours beau et de toujours solaire. Mais c'est quand même aussi quelque chose de très effrayant, de parfois violent.
Traversé parfois de grandes douleurs.
Voilà, exactement. Et je trouve que c'est important, même quand on est adulte, finalement, de se replonger dans cette enfance et de se dire finalement tout ça peut reprendre une fluidité et reprendre un mouvement. Et ça répond pas du tout à votre question.
Moi,
je trouvais ça très
bien
beau de
aussi
le dire.
Ce que vous avez dit. Mortel Adèle, c'est aussi une enfant libre, puissante, dessinée par quelqu'un qui s'est pas senti toujours protégé par les adultes à l'adolescence. Et alors, j'ai l'impression que Gadou, votre nouveau personnage, ce petit doudou voyageur, il pourrait servir aux petits enfants qui ne se sentent pas regardés, pas aimés, qui n'ont pas l'attention qu'ils méritent. Je dis ça parce que Gadou leur parle directement, leur parle tout le temps.
Il leur dit vous êtes super, voilà, merveilleux.
Gadou, en fait, pour moi, on n'est pas très loin de Mortel Adèle, en fait. C'est c'est un personnage qui est né du même, de la même matière. Pour moi, même son graphisme est un peu un test de Rorschach, c'est-à-dire que c'est un panda qui est né tout blanc, donc tous les jours il peint ses taches pour se réinventer, pour se recréer, pour trouver sa place parmi les autres. Et il y a cette coulure qui reste en permanence, par contre, sous son œil. Alors on peut y voir une larme, on peut y voir simplement de la peinture qui coule parce qu'il gigote dans tous les sens. Et je trouve ça chouette de finalement se dire que tout ce qui nous compose, le joyeux, le triste, on le prend et on va de l'avant. Et c'est ce qui nous compose et ça ne nous empêche pas d'avancer et d'aller vers l'avenir.
Et puis comme votre nouveau personnage Gadou, c'est un doudou, le vôtre, en tout cas c'est ce qu'il dit aux enfants qui le lisent, on a voulu savoir qui avait gardé son doudou parmi vous qui nous écoutez. Décrivez-nous votre doudou ou votre ami imaginaire. C'est assez incroyable là, ce qu'on reçoit parce qu'il y a des photos. Voilà, on a reçu par exemple Monsieur Bidou qui a 44 ans et qui est extrêmement mignon. Voilà. Mais surtout, on a reçu des vocaux, notamment celui de Mel.
Moi, quand j'étais petite, j'avais un ami imaginaire. Mais à la base, c'était un vrai copain de maternelle qui avait déménagé dans une autre école. Il s'appelait Melvin et du coup, c'était devenu mon ami imaginaire après ça. Et il était avec moi partout, Melvin. Et puis, quand j'ai eu 18 ans ou 20 ans, je l'ai recroisé, ce Melvin, parce qu'il sortait avec une copine à moi. Et donc, en buvant un verre, je lui ai avoué qu'il avait été mon ami imaginaire pendant un moment. Et il m'a pris pour une grosse folle.
C'est triste.
C'est triste et c'est génial.
Et c'est génial.
J'ai eu peur d'une histoire à la sixième sens. Je vois des gens qui sont morts, qui ne savent pas qu'ils sont morts.
Alors, dans un autre genre, on a Johanna qui
Faut pas dire la fin de sixième sens.
Salut les mamas. Mon frère était un grand gourmand. Il avait appelé son doudou chien Ketchup. Et moi, pour rivaliser, j'avais appelé mon amie imaginaire Amora. Elle ressemblait à la dame sur l'étiquette de la mayonnaise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, grosse famille de gourmands. Allez, viens Ketchup, on va au parc. Tu nous suis, Amora. Ouais, c'est assez mignon. Dans le genre, on a Marion qui nous dit « Mon animal imaginaire, c'était un magnifique cheval noir ailé qui allait aussi vite que notre bus scolaire. C'était encombrant, mais c'était classe. » Peut-être que ce cheval connaissait très bien Melville également. Et puis, je vais terminer avec un dernier message. C'est Carla qui nous dit « Salut les mamas. Mon doudou, à la base, c'était une belle poupée russe qui s'appelait Pénélope. À force de frotter ses cheveux entre mes doigts pendant 28 ans, c'est devenu un bout de crâne avec des locks qui effraient tous mes amis. J'ai quelquefois peur de le retrouver à la poubelle si quelqu'un tombe dessus. » Et elle dit merci pour votre émission, vous me régalez. Continuez de nous écrire, franchement, décrivez-nous votre doudou ou votre ami imaginaire, parce qu'ils
c'est
sont
la
vraiment
même chose,
super,
quelque
bien
part.
Sûr. Continuez de nous écrire. Le message WhatsApp, c'est au 01 45 24 7000 ou l'Instagram de l'émission, jusqu'ici tout va bien, _ France Inter.
Oui, jusqu'ici tout va bien, mais c'est bientôt l'heure de tirer le fil, un fil doré aujourd'hui, puisqu'on sait, Antoine Doll, que vous adorez l'art japonais du kintsugi qui consiste à réparer des choses cassées en les cousant d'or. On a donc eu envie de vous présenter une femme qui pratique l'art passion du kintsugi.
Ça sera Passion Kintsugi sur France Inter avec Myriam Greff.
Peut-on se réparer soi avec du fil doré, un verre en pyrex cassé en mille morceaux, petit lettre kintsugi ? On ne sait pas, on va le savoir bientôt. C'est J. Cole avec Stick and Stones sur France Inter. They gotta hide their face. They was predicting a nigga to fail. Turns out that was not the case. I'm rocking a mask with lots of cash. I look like I robbed a bank. Can't even rob the bank that I use. My money is not with Chase. Foreign deposit safe. I'm writing this shit on a private plane. Sometimes I be flying commercial. Still, these niggas get rich and become so detached. They music start having that surface feel. Not a subliminal. Speaking in general, feelings get hurt when words get spilled. Sticks and stones may break your bones, but saying my name in a verse will kill. Word of the wise. Nigga, we heard all them lies before. My number one's come from albums. Theirs is burgers and fries to go. Go against me, your odds is low. I don't even got no odds for real. Nigga, just give me my props for real. I done did everything, I'm about to chill. Count the meals and cribs on top of hills. Mad chips, cash rich, my stash thick, I'm Dr. Phil. Stash thick, I'm Steve Harvey. Bad bitch, two friends. Hat trick, caught three bodies. And tell them to go like they eat 40, Nigga don't want no smoke with me, I'm one of them ones. Tip-torn through the slums, ducking 100 round John. I took my lumps way out in Cumberland. Niggas ain't hung where I hung. Shit, I'm up, stomach still rumbling. Niggas ain't know what I done. Nigga don't want no smoke with me, I'm one in a one. Hop on a song with whoever, I ain't ducking no one-on-one. Shit. Hey, pull up the track, I'm about to black. I'm going on a whole nother run. Yeah.
So much drama on the street, feel like the beef is random. Murder galore, turning to Thor, I gotta keep a hammer. Case weather get inclement, shots rain on the innocent. The neighbors still don't know who sent them shits, it's like a secret Santa. Me, I'm out here reaching for a higher frequency. I plan to rest my feet in presidential suites and sleep in beach cabanas. Skeeting on 1,000 count sheets, I'm hitting freaks and tandems. Busting down and throw them in the cab like they from East Atlanta. How I feel to see the flash, bitch, and know that he can land them. Every word I speak on beats is guaranteed to feed the fandom. Weakless wanna walk inside my sneakers, watching from the bleachers. Only time they'll see the roles reverse is if they lease a phantom. Bad investment, but what else you had expected? Moms was broke my whole adolescence, never had a lesson. Except for pawn shop hustles, the Times collections had a stressing. Bitches couldn't tell if I was poor or just bad at dressing. It was a bit of both. When I took it up top, I took an oath. I was gonna hit a lick, pray prayer with my dogs and split a loaf. And take over the game, make sure that my name's considered GOAT. Now I'm back home, it's the best in the world to fall off. Come and hit a growth on God. Nigga don't want no smoke with me, I'm one of them ones. Tip-torn through the slums, ducking a 100 rounds young. I took my lumps way out in Cumberland, niggas ain't hung where I hung. Shit, I'm up, stomach still rumbling, niggas ain't know what I done. Nigga don't want no smoke with me, I'm one of them ones. Hopping on some with whoever, I ain't ducking no one-on-one. Shit, hey, pull up the track, I'm about to black, I'm going on a whole nother run.
C'était J-Cole avec Stick and Stones, un peu de hip-hop pour vous, Antoine Dole, qu'on fait travailler pendant ce temps-là, puisque vous nous faites plein de dédicaces. C'est pour vous, donc, ce hip-hop, car vous aimez ça.
Jusqu'ici, tout va bien. Marie Misset et Marine Baousson sur France Inter.
Avec Antoine Dole, ce soir, auteur, éditeur de livres pour enfants, pour adolescents, pour adultes, toutes générations confondues. Antoine, quand vous étiez ado, et cette histoire est horrible, alors je vais la dire avec moins de sourire, vos harceleurs à l'école vous ont cassé le pouce, justement parce que vous aimiez dessiner. Cette blessure aujourd'hui, elle est réparée, mais elle est restée longtemps là, en fantôme. On a voulu vous présenter quelqu'un qui prend le temps de bien réparer les choses, sans effacer le passé. Si vous avez des questions pour elle, n'hésitez pas à lui poser ou à intervenir.
C'est Passion Kintsugi sur France Inter.
Bon, ça va, vous pouvez corriger ?
Je sais pas trop. Là, j'essaie une nouvelle combine. Je passe sur les fautes avec de la peinture dorée pour réparer les armures. C'est... Oh merde, mais c'est magnifique ! Sans déconner, vous trouvez pas ça hyper classe ?
Bonjour Myriam Greff, c'est un extrait de Kaamelott, vous me regardez avec beaucoup d'interrogations dans le regard.
Je ne l'ai pas entendu celui-là,
et ben voilà.
Je suis très étonnée.
Ça parle de Kintsugi, je crois,
incroyable.
Ou presque. Vous êtes restauratrice, vous travaillez la céramique à l'aide d'une méthode japonaise qui répare les objets autant que les âmes, phrase énigmatique sur laquelle on va revenir. Cette technique, c'est le Kintsugi, donc réparer de la vaisselle cassée par exemple avec une matière qui ressemble à de l'or mais qui n'est pas de l'or, on nous a menti, visiblement.
Alors pas totalement, on vous a pas totalement menti. Il y a bien de l'or dans l'histoire. Donc si je fais bien mon travail, on va croire que je coule de l'or dans les cassures. Mais en fait, l'or est saupoudré en surface. Donc il y a bien de l'or, mais c'est un saupoudrage.
Il vous faut aussi de la sève d'un arbre japonais et je crois que vous commandez le tout par fax, ce qui est complètement dingo.
Mais exactement. Exactement.
Vous allez la chercher en 1988, c'est ça ?
Tout à fait.
Non mais il faut vous la commander.
Alors, il faut la commander au Japon car en fait cette sève elle provient d'un arbre qui s'appelle urushi et cet arbre il pousse au Japon. Il pousse aussi en Asie, mais l'arbre japonais est celui qui produit la laque la plus qualitative. Il y a vraiment une question de terroir pour ces arbres qui ne vont pas produire la même laque selon l'endroit où ils poussent, tout simplement.
Et ils n'ont pas Internet. Les arbres, ni les gens qui fournissent la sève des arbres.
Mais il n'y a pas si longtemps, il fallait encore commander par fax, réellement, la laque.
Qu'est-ce qui vous touche, vous, Antoine Dole, dans cet art japonais du Kintsugi, que vous avez découvert à cet art ?
Absolument tout. La première fois que j'ai parlé de ce pouce cassé, c'était il y a... Ça s'est passé en 1994. Et la première fois que j'en ai parlé, c'était il y a 4-5 ans. En fait, je suis revenu dans mon ancien collège et quand je suis revenu dans mon ancien collège pour rencontrer les élèves, je suis devenu tout blanc et la journaliste qui m'a accompagné m'a dit mais qu'est-ce qui t'a ? Donc je lui raconte cette histoire de pouce cassé et elle me dit mais aujourd'hui tu reviens dans cette cour avec des millions d'enfants derrière toi et c'est vrai que c'est là que les douleurs ont disparu. J'ai eu des douleurs fantômes pendant des années et en fait cette métaphore du Kintsugi. Moi, c'était une fracture, donc ça veut dire que le pouce était cassé en plusieurs morceaux. Et cette idée qu'on fait couler de l'or dans ses fêlures, et donc j'ai publié ce jour-là une photo de mon pouce avec j'avais repris les radios, etc. Et j'avais mis des fêlures d'or en fait aux endroits où la fracture avait été faite. Et je trouve que c'est une magnifique façon de parler de réparation.
Mais à Imgrève, vous expliquez qu'avant, vous aviez une démarche illusionniste par rapport aux objets cassés que vous répariez, parce que c'est ça, en fait, votre vie, c'est de réparer des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, une démarche illusionniste ?
Alors, en fait, en Europe, ce qu'on nous apprend en tant que restaurateur, c'est à vraiment effacer toutes les cassures. Ce qu'on veut, c'est que l'objet ressemble à l'objet d'origine. Une fois qu'il a été cassé, on ne doit plus rien voir. Et dans la phrase que j'entendais le plus souvent, on m'apportait une pièce, on me disait « je veux plus que ça se voit ». Et moi, ça ne me convenait pas du tout.
Et pourquoi ?
Et parce que on peut pas faire. Non, il y a deux raisons. D'abord, les céramiques sont des objets utilitaires. Donc, quand on fait une restauration illusionniste, on ne peut plus utiliser les objets. Donc, je me retrouvais à expliquer à mes clients que certes, ils allaient plus voir les cassures, mais par contre, ils pourraient plus utiliser leurs objets. Donc,
parce qu'il y a des trucs toxiques dans les objets.
Exactement. Donc, il y avait un non-sens. Il y avait un non-sens complet. Et en plus, d'un point de vue philosophique, on est ce qu'on est. Et donc, s'imaginer... pour moi, c'était farder des pièces, en fait, au final.
L'impression de mytho, quoi, de mentir.
Mais exactement.
Et alors, on peut tout réparer comme ça, un truc cassé en 1000 morceaux, un plat en pyrex, les assiettes déco accrochées au mur des gens qui aiment décorer chez eux avec des assiettes, on peut tout réparer ?
Alors, ça dépend de votre budget. oui, on peut réparer énormément de choses. Et moi, je me suis fait vraiment la spécialiste du kintsugi tout terrain, où je me suis retrouvée à réparer des tables en marbre, du bois fossilisé, du verre, plein de choses.
Plein de choses
improbables, des lunettes.
Mais toujours avec de l'or.
Toujours avec de l'or.
Voilà, si c'est de l'argent, c'est pas bien.
Alors c'est Gintsugi si c'est de l'argent.
Ah, ok, d'accord.
Nous, c'est Kintsugi, ok.
Voilà, ok, excusez-moi. parce que moi, j'essaye de comprendre. Donc si j'ai bien compris, le Kintsugi, c'est l'idée que ce sont nos aspérités, nos défauts, nos fêlures, j'ose le dire même. ça fait nos forces. En fait, c'est un petit peu comme les t-shirts attachantes, quoi. C'est vraiment, on essaye de dire nos fêlures, on n'a pas peur, on les montre.
Exactement.
Je sais pas si j'aime cette comparaison.
Je ne sais pas si j'aime les t-shirts à message. Déjà.
Ça balance aujourd'hui sur France Inter.
Voilà.
Sujet engagé.
C'est vrai que... on peut dire que la cassure est une force, mais pour moi, c'est aussi une preuve de modestie, en fait. Se montrer fragile, c'est être modeste par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes et aussi appeler les autres à nous aider. Je prends toujours la comparaison d'une tasse dont on a cassé l'anse. Si on voit pas qu'elle est, que l'anse est cassée et qu'elle est réparée de manière illusionniste, eh ben on va reprendre la tasse et la réutiliser sans faire attention. Alors que si on voit la cassure, on va faire attention. Mmh. Et pour moi, c'est ce message-là que j'ai envie de transmettre.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit les blessures pour justement que les gens nous traitent avec plus d'attention.
Exactement.
Que les gens nous traitent avec plus d'intelligence. Vous avez ramené une assiette à Monsieur Tan qu'on appelle aussi un douane d'ol. On la voit là parce qu'il y a aussi une vidéo. Vous pouvez nous suivre sur YouTube en même temps. Et c'est fou, il y a un petit panda dessus. Or, vous ne saviez pas que le nouveau personnage de Antoine Dol est un petit panda.
Et mais c'est totalement incroyable.
Il n'y a pas de hasard, je vous le dis.
J'ai réalisé il y a quelques années déjà, et j'avais voulu justement jouer sur le côté manga et rajouter un petit panda assis sur la cassure. Et donc voilà, donc j'ai pensé manga, j'ai pensé Monsieur Tan, et il se trouve que Gadou était là.
Et c'est un très très beau cadeau, et je rejoins totalement Myriam sur cet éloge de la fragilité. Je trouve que c'est très beau dans les sociétés de compétition et de pression dans lesquelles on est aussi, de faire cet éloge de parfois la lenteur qu'on a à se réparer et à assumer aussi ces fêlures.
Moi, j'ai une question pour vous, Myriam. À partir de quel moment on se dit que soit vous faites de l'artisanat ou vous faites de l'art pour vous ?
Ah. Il y a quelques années, vous m'auriez dit que j'étais une artiste, j'aurais crié très très fort. non, aujourd'hui, je considère vraiment que je fais de l'art, je fais de l'artisanat d'art avec vraiment un axe qui va de plus en plus vers l'art, comme cette pièce avec le petit panda qui vient s'asseoir sur la fêlure, pour transmettre à la fois un message plus vaste, puisque j'ai plus de possibilités de m'exprimer en tant qu'artiste plutôt qu'en tant que restauratrice, réparatrice d'objets.
C'est quoi votre plus belle réparation ? Celle où vous aviez du mal à y croire et le Kintsugi a opéré, ça a marché, il a ressuscité l'objet.
Alors, vous allez être très étonnés, c'est une dent de tyrannosaure.
Alors, on veut tout savoir, évidemment.
Évidemment.
Bon, bah, évidemment. Je sors du studio, je ne peux pas rivaliser.
Oui,
avec,
c'est compliqué. C'est
terminé pour moi.
C'est tout pour les enfants, quoi. Une dent de tyrannosaure,
une
on ne peut pas faire mieux.
Oui, mes neveux ont beaucoup aimé quand Tata a eu la dent de tyrannosaure. Et ben, c'est une dent de tyrannosaure qu'un collectionneur avait achetée à une boîte de paléontologie, car oui, on peut acheter des dents de tyrannosaure fossilisées.
Sur dentetyrannosaure.com, je crois.
Exactement, tout à fait. Et elle est arrivée complètement cassée, et donc du coup, il m'a demandé si je pouvais intervenir sur cette pièce, et c'était complètement incroyable, parce que je pense que tous les enfants, j'ai été fan de dinosaures, de Denver, de tout ça, et donc du coup, c'était assez incroyable, puis en plus, l'air de rien, c'est tout petit, une dent de tyrannosaure.
Ah bon?
Oui, c'est très frustrant. C'est
vraiment, peut-être un bébé.
C'est vraiment tout petit. Non, c'est que le haut de la dent qu'on a. En
ah,
fait.
D'accord.
Donc c'est ce qu'il y a dans la gencive, pardon, d'être assez précise.
Mais... Excusez-moi d'être inculte.
Ça doit partir. Non, ce qui est fossilisé, c'est vraiment le haut des dents. Donc ça doit faire 3 cm. Mmh. Donc c'était vraiment un tout petit objet. Après, dans les choses un peu incroyables, j'ai restauré mon mur. Mon mur de, parce que j'ai percé ma cloison avec beaucoup, beaucoup d'entrain. Et donc, c'était pas un mur, c'était une cloison. Donc, du coup, j'ai restauré.
Donc, c'est pratique, oui. C'est-à-dire que vous pouvez réparer des bols et évidemment, si on a des petits travaux,
sûr,
pour vous contacter
des
également.
Des travaux de maçonnerie.
Bien sûr. On peut donc kintsugi sa maison. C'est parfait. Au revoir et merci, Myriam Greff, d'être venue nous parler de kintsugi. Je rappelle que vous êtes restauratrice, vous êtes passée maître dans l'art du kintsugi. Et on retrouve certaines de vos pièces à la galerie Bartou à Paris.
Merci beaucoup.
Antoine Doll, on parle de votre œuvre, de votre vie, de vos nouveaux livres Gadou aux éditions Mr. Tan & Co, mais aussi La Petite Grande Aventure. Non, La Petite Grande Chat-Aventure d'Ajax qui se concentre sur le chat de Mortel Adèle. C'est une sorte de spin-off en quelque sorte.
Tout à fait.
Et c'est bientôt l'heure de vous imposer mon obsession. On va parler de vos petits carnets, Antoine Doll. Quant à moi, à 17h53, je vous fais vivre l'extase que j'ai ressentie en faisant un truc que je ne pensais pas faire moi-même un jour. J'en dis pas plus, je vous explique tout à l'heure. Et avant d'ouvrir vos journaux intimes, Antoine Doll, et de savoir ce qu'il y a dedans, vos secrets les mieux cachés, comme vos premiers croquis, on dédie ce morceau de Philippe Catherine au héros de votre nouveau livre, Gadou, qui est en fait un doudou. C'est Doudou de Catherine sur France Inter.
Elle a une odeur, on dirait un doudou, très doudou. Il y a comme une odeur de je sais pas quoi qui me rappelle. Le jour où la première fois j'ai trouvé la vie belle, c'était au mois d'août, ça sentait le foin, mêlé au jasmin, très doux, doux. Elle a une odeur, on dirait un doudou, bien plus doux que tous les doudous que j'ai jamais connus au monde. Et pourtant Dieu sait s'il y a des doudous dans ce monde, des doudous très doux, des doudous câlins. Des doudous chagrins, très doux, doux. Elle a une odeur, je suis comme un toutou, très doudou. Un bon toutou qui remue la queue quand on l'appelle. Un bon toutou qui vous fait trouver la vie belle. Un toutou très doux, un toutou câlin. Un toutou chagrin, très doux, doux. Dou 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 dou.
Si ça n'était pas encore clair, le titre s'appelle Doudou de Catherine. À l'instant sur France Inter, Antoine Doll, on parle de votre nouveau livre Gadou aux éditions Mr. Tan & Co, qui est votre maison d'édition. Gadou qui est un doudou, évidemment, un doudou qui parle beaucoup à ses petits lecteurs en 4 cases verticales dans un style de BD japonais qui s'appelle un yonkoma. C'est l'équivalent d'un strip en fait, en quelque sorte. Voilà, ça nous a donné envie de vous demander à vous qui nous écoutez, décrivez-nous votre doudou ou votre ami imaginaire. J'ai hâte de voir les livres que vont faire nos auditeurs et nos auditrices sur leur doudou, parce que vraiment là c'est absolument formidable, il y en a plein. On a reçu notamment un message de Christine, de Véronique, qui nous dit: je vous présente Christine qui a 70 ans. J'avais pleuré parce que sa patte était trouée, heureusement maman l'avait recousue. Je suis toujours émue en voyant cette reprise. Je me demande si je ne suis pas la doyenne de vos auditeurs. Je ne sais pas, mais en tout cas votre doudou, effectivement, on sent qu'il a vécu, mais il est extrêmement mignon. Et puis on a reçu ce vocal.
Salut les mamas, c'est Rémi.
Et salut Rémi.
Moi, mon doudou, c'est un éléphant qui s'appelle Ollivander. Et à la base, il n'était pas pour moi. Je l'ai acheté pour l'offrir à une de mes amies. Mais en fait, à ce moment-là, je venais de me retrouver célibataire et je vivais tout seul dans mon appart. Et du coup, j'ai pas pu résister à l'envie de dormir avec lui. Oh. Et en fait, j'ai craqué. Après, c'était mon doudou, quoi. J'ai jamais pu l'offrir à mon ami qui, du coup, n'a jamais eu de cadeau d'anniversaire. Bisous, merci pour l'émission.
C'est un doudou d'adulte, c'est super. Dans un autre genre, on a Angèle qui nous dit, alors qui nous a envoyé un vocal, mais la qualité sonore n'était pas assez bonne, donc je vous le lis. Elle dit, petit message pour vous dire que moi, mon doudou, et ce depuis toujours, c'est des étiquettes de vêtements, mais attention, pas toutes, parce qu'elles n'ont pas toutes la même texture, et qu'il n'y en a que certaines que je trouve douces. Donc je fais la collection de ces petites choses.
On vous connaît les zinzins des étiquettes de vêtements, je vous ai déjà croisé dans ma vie.
Et puis,
100% polyester, ce soir.
Oh, waouh.
Et puis je termine avec ce de Cécile qui nous dit: mon doudou s'appelle Louison, c'est un petit ourson blanc et bleu, il a bientôt 43 ans. Comme j'étais un peu flippée quand j'étais petite, je faisais des exercices incendies. Dans ma tête d'oreiller, j'embarquais mon exemplaire des petites filles modèles et mon Louison, et j'étais en dehors de la maison en 30 secondes. J'ai dormi avec Louison jusqu'à mes 20 ans. Maintenant, il est dans une valise de poupée, bien à l'abri chez mes parents. Mais ma mère ne fait pas d'exercice incendie. Voilà, c'est trop mignon. Merci pour tous vos messages. Vraiment, on reçoit des photos et tout, c'est vraiment extrêmement mignon. Mais je profite pour dire que Monsieur Tan nous a fait un cadeau incroyable. Il a dessiné Mortel Adèle pendant l'émission, et donc on va vous le faire gagner. Pour ça, Clara, notre stagiaire formidable, va publier sur notre Instagram ce magnifique dessin. Likez la photo, abonnez-vous à l'émission, et puis voilà.
Puis on va décider des règles après, parce qu'on vient d'avoir
l'info.
On n'est pas vraiment encore au point sur ce jeu concours.
Il faut qu'on pose un peu les bases.
Mais
on
va tirer
bosser
au sort. Mais pour ça, il faut vraiment s'abonner. Abonnez-vous à notre Instagram. Voilà. Merci pour
les
tous vos messages.
Mass marketing.
Voilà, le mass marketing. Parler, voilà. C'est l'heure de vous imposer mon obsession, Antoine Doll.
Cette obsession, c'est les carnets que vous noircissez depuis l'enfance, vos journaux intimes devenus aussi des carnets de travail. L'autrice Joanne Didion, elle disait que tant qu'on vivait pas avec des carnets toujours sur soi, on n'était pas écrivain. Bon, bah moi, du coup, je suis pas écrivain, mais vous, oui. Vous avez toujours écrit pour vous-même, Antoine, depuis que vous êtes tout petit ?
Toujours. Ça a toujours été ma porte d'entrée vers les émotions. Ça s'est vraiment déclenché plus tard. En fait, au collège, on a eu un cours d'histoire où on nous parlait de l'Égypte ancienne, et on nous disait qu'il fallait pas nommer le nom des dieux, parce que nommer le nom des dieux, c'était s'approprier leur pouvoir. Et c'est là que j'ai compris que l'écriture pouvait être un moyen incroyable de contrôler mes angoisses et mon anxiété.
Parce que ça leur fait baisser leur pouvoir, vous pensez, si vous écrivez les angoisses.
Et réussir à nommer la bonne émotion au bon moment, mettre le bon mot sur la bonne vibration. Pour moi, c'est une façon de la contrôler.
De la gérer un petit peu. Vous les relisez, vos journaux d'intime d'enfant ?
J'en ai relu, j'ai arrêté très vite.
Ouais, c'est dur, non ?
C'est étrange. En fait, je crois qu'on se rend pas compte, en grandissant, la violence de ce qu'on pouvait ressentir, ou en tout cas la perception qu'on en avait à certains moments. Et je suis toujours très triste quand je les relis, de me dire...
Pour ce petit enfant, quoi.
Ouais. Mais c'est chouette, en tout cas, qu'à un moment donné, il y ait eu cet endroit où on a pu laisser ça, déposer ça. Voilà.
Ça veut dire que c'est même pas forcément des choses qu'on écrit pour être relues plus tard.
Non. Non, bah, moi, j'ai toujours écrit des journaux intimes parce que j'ai toujours trouvé ça important d'archiver, en fait, les émotions que j'arrivais pas à manier. Et c'est comme ça que je suis venue à l'édition, en fait. J'ai publié mon journal intime sur Internet à l'âge de 20 ans, sur un blog.
En vous disant, je crois, vous sortiez de votre anniversaire, vous vous êtes dit...
Oui.
Eh oui, je travaille, monsieur, je travaille. Vous vous êtes dit, en fait, mes amis ne me connaissent pas vraiment.
C'est ça. En fait, j'avais vraiment l'impression que les gens savaient pas du tout qui j'étais et que je mettais beaucoup de distance, en fait, entre la personne que j'étais au quotidien et ce que j'écrivais dans mes carnets. Et que le moyen le plus vrai d'exister, c'était d'écrire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mon premier roman.
Mais ça veut dire que pendant tout ce temps-là, vous saviez qui vous étiez ?
Je pense que oui. Je pense que oui, je pense que c'était juste très difficile de... On parlait tout à l'heure de la fragilité du kintsugi. Je trouve que c'est très difficile d'être une tasse brisée et de se présenter comme ça avec les gens. L'idée que les gens vous manipulent avec précaution était quelque chose qui m'effrayait beaucoup. Et j'avais tendance à me laisser briser
facilement.
Très facilement.
Ouais. Donc, de ne pas trop montrer.
Exactement.
Il y a quelques années, Lucie Michaelian, elle a fait un podcast qui s'appelle Mes 14 ans, où elle racontait tout ce qu'elle trouvait dans ses journaux intimes. Il faut vraiment être bien dans sa peau et à l'aise avec son passé pour faire ça, non ?
Je pense que ça nécessite d'être extrêmement dans la bienveillance de ce qu'on a été quand on était ado. J'ai pas encore, très honnêtement, atteint ce stade dans ma thérapie, ça va.
Non, mais moi, je vous regarde, je vous dis, oui, évidemment que
mais
non.
Mais oui, je bois avec mes yeux. Et effectivement, je pense qu'il faut beaucoup de bienveillance. Et oui, j'ai pas encore acquis ce super pouvoir-là.
Voilà. Et alors, sur Instagram, on a découvert avec Marine que vous notiez aussi dans des carnets toujours les noms de tous les gens à qui vous dédicacez des livres. Pourquoi vous faites ça ?
Et bah, parce que je me dis qu'un jour, je serai sûrement vieux et personne viendra à mes dédicaces. Et je serais heureux de savoir que j'ai rencontré la petite Jeanne à Biarritz, le petit Hugo à Bénaud. Et hier, on était en dédicace avec Chris Pop et Diane, et j'ai terminé un de ces carnets en fait que j'ai depuis celui-là. Je l'ai rempli en un an, et je note tous les prénoms, et j'étais hyper ému en fait. C'est que c'est con, mais aussi c'est une façon de dire à ses lecteurs qu'on les regarde dans les yeux et qu'ils existent, que c'est pas juste des visages qui passent, et c'est aussi des enfants dont on se souvient, qui nous apportent leur confidence, leur passion, leur soutien. Et je suis très attachée à ce rapport-là.
Et vous dites aussi que ça permet d'effacer tout ce qui est rancœur ou tout ce qui n'est pas très important autour de ce que vous faites.
Oui, le monde de l'édition n'est pas le plus rigolo et pas peuplé de gens toujours bienveillants non plus. On a la chance d'avoir un succès. Voilà, c'est aussi des choses désagréables derrière. Donc, je trouve que ce rapport au lectorat, c'est notre cap. C'est eux, nos patrons, et c'est ces enfants-là, et c'est pour eux qu'on le fait. Et si on perd ça de vue, on arrête tout de suite parce que le reste est difficile.
En tout cas, moi, ce que je comprends en vous écoutant, c'est que si vous n'écrivez pas quelque chose, ça n'existe pas.
Oui, raison pour laquelle j'ai publié plus de 100 livres.
Il y a des carnets que vous brûlerez pour être sûr que personne ne les publiera ou ne les lira quand vous serez mort.
Je n'ai jamais osé. Je pense que ça... Non, c'est impossible. C'est impossible. Il y en a qui sont cachés. Très sincèrement, il y en a qui sont cachés.
Chez vous, ça sous une latte de parquet.
Parlez. Non, mais il y en a qui sont cachés, où je sais que j'y raconte des choses qui sont beaucoup trop intimes et qui abîmeraient peut-être trop autour de moi des gens, mais en tout cas, ils existent et ils existeront toujours.
Est-ce qu'on va retrouver Mortel Adèle?
Alors, les Mortel Adèle, vous allez en trouver partout, quoi, à ma mort, dans tous mes couloirs, dans tous mes tiroirs, dans toute ma maison, il y a des croquis, ouais.
Il y en a une ici qui achète plein de carnets aussi parce qu'elle les trouve où? Je sais pas si elle les utilise vraiment. Non. C'est l'heure de fraîcheur marine, dans Jusqu'ici, tout va bien.
Aujourd'hui, truc de fou, j'ai fait mes propres glaces. Or, les glaces, c'est une des seules recettes pour lesquelles jusque-là, je ne m'étais jamais demandé, tiens, mais comment ça se fabrique? Est-ce que j'essaierai pas de mon côté de faire ma propre glace maison? Non, voilà, les glaces, pour moi, c'est magique, c'est éphémère. Ça allait dans une boutique à Moreno par un bel après-midi. Ça a un nom romantique genre nocciolata, notez-le si vous voulez. Et ça meurt superbement sur nos papilles. Pour les autres, les glaces en barquette, ça voit le jour dans des supermarchés, ça vit dans des congèles et ça meurt le soir dans nos canapés quand on se regarde un petit épisode de Koh-Lanta bien enfoui dans nos plaids. C'est la base. D'ailleurs, moi, tu peux me sortir une glace à n'importe quel moment de la journée ou de l'année. Je crois que j'aurai toujours la même réaction, qui est celle d'un candidat qui trouve un colis d'immunité. Quoi ? C'est pas vrai ! Non, mais j'y crois pas ! Voilà, il y a peu de chances que je la partage, cette glace. Même si Denis Brognard, il me menace, je m'en fous, je la rends pas. Ah. Or, la marque Ninja m'avait déjà envoyé en début d'année dernière sa friteuse sans huile, et qui est tellement validée que j'en ai offert à ma sœur, qui en a offert à mon frère, qui en a offert une à ma mère. C'est genre une sorte de cadavre exquis du gras, hein, on dirait des chaînes de mails d'il y a 15 ans. Une fois, une personne qui avait reçu un air fryer n'en a pas offert un, et elle a été condamnée à manger les frites froides et huileuses toute sa vie. Donc, offrez-le à 8 personnes. Signons craignez la vengeance suprême du cholestérol. Bref, Ninja m'a donc envoyé son nouvel appareil qui s'appelle le Creamy Deluxe et qui sert à faire soi-même ses glaces, sorbets, granités, milkshakes, etc. En fait, le principe est simple. La machine, qui ressemble à une grosse machine à café, est livrée avec des sortes de petits Tupperware. Dedans, vous mettez ce que vous avez prévu de transformer en glace, donc des fruits, une recette de crème au hasard, mais alors vraiment au hasard, à la vanille, parce que au hasard, mais alors vraiment au hasard, c'est vraiment trop bon. Vous fermez le tube, vous mettez ça 24 heures au congèle et là,
état, joie, bonheur. Vous insérez le tube dans la machine, vous tournez la molette pour choisir ce que vous voulez faire et en 5 minutes, elle transforme tout en une glace crémeuse. Je sais pas comment vous dire, ces gens ont tout simplement inventé la machine à bonheur. Ils auraient inventé une génératrice d'arc-en-ciel que ça m'aurait moins rendue heureuse. Voilà. Et comme si ça suffisait pas, vous avez même un mode pour rajouter des petits toppings, donc des cacahuètes ou des Kinder Bueno ou des Oreos.
Ça s'appelle la publicité là, Marine.
Exactement. Oui, en fait, je suis
Marine, elle est devenue influenceuse.
Exactement. Je suis clairement en train de vous donner en fait tous
on
les.
On lui donne un dessin pour faire gagner sur son compte et elle devient influenceuse.
Bah, tiens, je peux tout faire, franchement. Mais celui-là, je le fais pas gagner, je le garde pour moi. Non, je suis en fait en train de vous donner exactement les ingrédients pour faire le McFlurry de McDo. Et c'est évidemment par là que j'ai commencé. J'en ai fabriqué un moi-même. C'était incroyable. Le Mac, il a fleuri dans ma bouche. J'étais un bouquet de
saveurs. Et là, elle reçoit une balle.
C'est ça. Alors, j'ai tenté aussi avec des fruits congelés. J'allais dire une marque, mais je vais pas le dire. Voilà, c'est incroyable. Vraiment, c'est fou, ça marque. Mais j'en ai profité en fait pour me demander qui a inventé la glace. C'est vrai. Et quand? J'ai dire, comme ça, moi, à vue de nez, j'aurais dit à peu près en même temps que le premier congélateur domestique, qui, comme tout chacun le sait, c'est date de 1913. Mais non, parce que figurez-vous que les premières glaces ont été inventées un peu avant, il y a 3000 ans. Tout ça grâce à une technique pour créer du froid artificiel en mélangeant de l'eau et des sels minéraux. Les gars, ils n'avaient pas de canapé, ils avaient des plaids en peau de bête non tannée, ils n'avaient pas Koh-Lanta à regarder dans la mesure où leur vie c'était Koh-Lanta, mais ils avaient des glaces. Voilà. A priori, les historiens ne sont pas hyper d'accord pour savoir si c'était les Perses ou les Chinois qui ont inventé le concept, mais tout ça nous apprend deux choses. D'abord, un, il y avait des glaces il y a 3000 ans, truc de ouf, et deux, il y a des historiens des glaces. Voilà, ça c'est quand même incroyable. Au moins deux, pour qu'ils puissent se quereller. Je pense donc que ces historiens seraient outrés par les tests de parfum de glace et de milkshake que j'ai testé, que j'ai fait. Ils sont absolument d'ailleurs hors de question que je vous révèle tous mes secrets honteux, mais sachez que la glace à l'ail, c'est super, avec un petit coulis de chocolat.
Mais t'es sérieuse de la glace à l'ail?
Ouais, c'est très bon.
J'ai hâte de voir les invités de la prochaine émission.
On retrouve tous les jours Fraîcheur Marine en podcast sur France Inter, en spectacle ce soir au Grand Point Virgule, c'est ta dernière, ce sera à 21h15. Antoine Doll, on chahute ensemble depuis 17h08, on parle de votre nouveau livre, Gadou, le temps passe, le temps file, aux éditions Mr. Tan & Co. Gadou, dans les premières pages du livre, il explique qu'il est votre doudou et que maintenant que vous avez grandi, il voyage. Vous dites parfois que Mortel, Adèle, l'héroïne que vous avez inventée est votre alter ego, l'un dans l'autre. On a envie de connaître le petit Antoine Doll.
C'est l'interview Mortel Antoine.
Ah. La bêtise que vous avez faite dont vous êtes le plus fier encore aujourd'hui.
Faire lire 19 millions d'enfants qui vont devenir des adultes et qui vous montreront...
Non, c'est de la démagogie.
L'importance.
On veut la vraie bêtise.
De célébrer cette différence.
On veut la vraie bêtise.
Ah non, elle se dit pas au micro. Ah.
La fois où vous avez répondu à vos parents, la fois où vous avez répondu un truc à vos parents, c'était quoi?
À peu près toutes les fois. J'étais timide, mais pas tout le temps.
Votre insulte préférée quand vous étiez enfant?
Les insultes préférées, nous dans ma famille, on a toujours mixé les mots. C'est ce qui a donné la plupart des titres de Mortel Adèle. C'était des choses qu'on disait quand j'étais petit. Funky Moumoute, face de beurk, toi je te zut.
Ouais, c'est face de beurk, on aime bien, ouais.
Tête de slip, c'est pas mal aussi. Alors, le méchant de dessin animé que vous adoriez?
Alors, adoré, qui me faisait très peur, j'en ai un. Ouais. C'était la petite chauve-souris dans Basil le détective privé. Elle me terrorisait.
Il y a des gens qui ont été terrorisés par Basil.
C'est Fidget, je crois.
J'ai pas son nom. Ah, le nom de votre ami imaginaire?
Mortel Adèle.
Ah, c'est pas mal. Et vous deviez faire quoi quand vous étiez puni?
Je ne sais pas.
Vous alliez pas au coin?
Non, moi j'étais un enfant trop malin pour me faire prendre.
Ah, pas mal, c'est pas mal.
Too cute to be guilty.
Et alors, c'est presque la même chose que l'insulte préférée, mais votre gros mot préféré quand vous étiez enfant?
Je peux vous dire celui que je préfère aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a le droit de le dire sur l'antenne?
On a le droit de le dire exceptionnellement.
Ah, moi je dis putain tout le temps.
Ah bah bravo.
Je vais pas terminer là-dessus, je vais terminer sur le fait que la chauve-souris dans Basile détective privé s'appelait bien Fidget.
Ah, vous voyez, Alzheimer n'est pas pour tout
souris. Merci beaucoup Antoine Doll, votre nouveau livre Gadou est donc aux éditions Mr. Tan & Co. On peut aussi y découvrir les aventures d'Ajax, le chat de Mortel Adèle dans la petite grande Chaventure d'Ajax qui est sortie en avril. C'était Jusqu'ici tout va bien, une émission préparée par Alexandre Gilardi, Louis Tempero, Clara Arconada et Laura Dumez. Mathias Volant était à la réalisation, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale, c'était Maxime Goudard à la technique et Ludovic Asselot à la vidéo. On se dit à demain.